quatre heures se sont écoulées entre le moment où Eddie a raccroché et celui où il est venu m'avertir du coup de téléphone, vers minuit. Mon père sait où me trouver. Après le turbin, je m'amuse au même endroit lugubre, dernière escale avant la forêt. Sa peau, couleur pain d'épices, a viré blanc, comme si un fantôme scandinave le possédait. La surprise réchauffe mon corps. Lui, ici. Mes fesses sont aplaties sur le capot d'une voiture déglinguée, dont le toit sert de comptoir. Café, jus d'orange, coca, vodka. Eddie s'approche, mais pas trop. Avec sa paume, il m'ordonne de me redresser. Des noix de cajou m'échappent des mains. J'essuie mes doigts salés sur mon jean et ma veste en cuir qui ne se ferme plus. Le lampadaire éclaire sa dégaine en vrac. Il a enfilé sa gabardine classe par-dessus le pyjama rose. Ses cheveux gris, toujours coiffés quand il sort, sont cachés par un béret bouloché. Les quatre gars avec moi se figent. Lui, ici. Archie, mon binôme de toujours, lâche un petit cri aigu. On dirait la première scène d'un film d'épouvante. À cette heure-là, personne ne s'aventure dans ce désert de béton où se dressait jadis l'ancien centre commercial. La nuit, son parking en plein air est la chasse gardée d'une poignée de galériens et de nostalgiques. Des types qui dilapident leur temps comme s'ils avaient deux vies et une promesse de résurrection. On fume, on boit, on tchatche, on s'embrouille, on rit d'un wallow. Et sans trop savoir pourquoi, on se disperse quand le premier bus de la journée, à 5h14, escalade bruyamment son premier dos d'âne. Ma voix caillouteuse retombe illico en enfance. « Papa, viens voir !» Je trottine vers lui, nos nez se frôlent, on chuchote. « Il se passe quoi ?»« Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone ?» Du menton, mon père m'indique la direction de la zone industrielle à 300 mètres. En me retournant, je vois ma bande me fixer comme si je venais d'être capturé. Aucun d'entre eux ne bouge. Mon sac, avec mon uniforme du boulot, est calé contre le lampadaire. Je l'abandonne là-bas, c'est trop tard. Sur le chemin, Eddie refuse de répondre à mes « vas-y, parle !» Seulement des « chut !» en rafale. Et le bruit de ses claquettes sur le bitume. On marche à même la route, bouffée par les nids de poules, entre les cartons de pizza. Avec sa semelle, mon père écarte un hérisson immobile. Une douce touche pour le secouer. Et il allonge sa foulée. Je m'accroche à sa manche, tel un toxico. Arrivé devant un abribus, il m'empoigne l'épaule. « Ta mère a fugué. Comment ça a fugué ?»«
Je ne sais pas, elle est partie. »« Mais comment ça tu ne sais pas ? Papa, tu rigoles là ? T'as fait quoi ?»
Il mime un coup de fil. Amani l'a appelé à 20h, pile quand il rentrait des courses. L'appel a duré 2 minutes et 16 secondes. Ma mère a reporté ses explications à plus tard. Elle est partie parce qu'elle en avait besoin et reviendra quand elle se sentira prête. Eddie n'a pas compris ce qui se passait. La voix d'Amani lui apparaît tranquille, ce qui, de son propre aveu, l'a terrifiée. Elle a parlé, il s'est tu, elle a raccroché. Depuis, il se cogne sur son répondeur. Il me demande si elle est devenue folle ou bien si c'est lui. Notre ping-pong de questions usuelles est vain. Elle ne t'a pas causé d'un endroit ? Elle était préoccupée ? Il y a eu une embrouille ? Est-ce qu'elle serait capable de faire une blague de ce genre-là ? Non, à tout. Ses affaires dans l'armoire n'ont pas bougé. Elle serait donc partie sans rien ? Mais Postillon arrose et dit « Raconte l'histoire depuis le début, s'il te plaît, recommence !» Il répète en saupoudrant de détails supplémentaires. Amani était allongée sur le canapé quand il est sorti, vers 16h. Elle lui a filé une liste de courses, œufs, yaourt, liquide vaisselle. Il s'est posé au café, où il a joué à la belote jusqu'à 19h avec ses amis, avant de se rendre au supermarché. Quand il a poussé la porte, vers 20h, l'appartement était vide. Ma vessie se compresse très fort. La sensation d'accueillir toute l'urine du monde. Mon père lève les mains au ciel. « Je te jure !»
Tout était normal. Tu as pu voir quand tu es parti travailler. Elle était bien. C'est impossible. Il s'est forcément passé un truc. Ou alors elle doit être rentrée maintenant. J'en suis sûr.
Sur le chemin de la maison, on accélère. Je lui reproche les 4 heures de battement. Pourquoi n'est-il pas venu me trouver directement au boulot? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé avant? C'est son épouse, mais c'est aussi ma mère. Sans me regarder, il crache par terre et réplique que, dans ces cas-là, on ne réfléchit pas. Il avait couru dehors et démarré la Clio pour partir à sa recherche, rôder, inspecter les trois gares, les quatre hôtels et les deux hôpitaux les plus proches de la cité. Rien. Après ça, les vertiges qui le handicapent depuis sa retraite l'ont coincé. Il est rentré s'asseoir dans son fauteuil, boire une aspirine, chercher des indices et prendre une douche. À la moindre contrariété, une ampoule qui pète, le vent qui claque les volets, un verre renversé, Eddie transpire à mort. Je propose de donner l'alerte, par texto, par Snapchat, par n'importe quoi. Quel Snapchat? C'est quoi ça encore? La caverne, notre terroir, est un quartier populaire comme un autre, où des hiboux aux fenêtres surveillent qui va et vient toute la sainte journée. Eddie pose un cadenas sur l'idée. On aurait pu en entendre le bruit. Sa hiérarchie est immuable. Dieu au septième ciel, et au huitième, la réputation de sa famille. On n'a même pas encore compris ce qui se passe et tu veux déjà ramener tous les autres? C'est une affaire entre nous. Si quelqu'un avait remarqué quelque chose avec ta mère, on m'aurait appelé. Tu le sais bien. Mon portable dans ma poche vibre en continu. Au parking, il s'inquiète. Archie a déjà pigé. Tata, Manny va bien? Mon père insiste en tapotant sa tempe de son index. On la ferme. Il a trouvé un bobard pour ceux qui nous auraient aperçus dehors, lui et moi, à cette heure tardive. Nos toilettes débordent. Le vieux anticipe le jour d'après. La fuite d'une mama alimenterait rumeurs et cancans jusqu'au siècle prochain. Il ne se produit plus rien d'exceptionnel à la caverne. Les récits de nos conteurs les plus doués surexploitent le passé. Ils ont le goût du chewing-gum mâchouillé. Et puis, il y a les codes tacites. Ici, une femme ne se barre pas en laissant un homme à la maison. Elle doit rester, quoi qu'il en coûte, quitte à se bousiller elle-même. Ce sont les mâles qui ont le droit de prendre la tangente et de recommencer leur vie s'ils le souhaitent. Parfois sur un autre continent, parfois à l'autre bout de la ville. Mon père colle son front sur les boîtes aux lettres de notre immeuble. Il manque de glisser sur un prospectus. Ses yeux noirs cuir s'éclaircissent. Ils ont une couleur zébrée. Pour un rock tel que Eddie Gamaudi, ça équivaut à un pack de larmes. Dans l'ascenseur, je m'accroche à une certitude. Ma mère est revenue. Elle est trop casanière pour l'aventure. Depuis un an, elle n'a plus mis un pied à la gare. La position du paillasson ruine mes espoirs. Elle ne l'aurait jamais laissé comme ça, en biais. Amani a ses superstitions. Eddie avait oublié de verrouiller la porte de l'appartement et d'éteindre les lumières. Sur le carrelage du salon, des flaques d'eau racontent sa fâcheuse tendance à se comporter en monstre marin. Il sort de la douche en s'essuyant à peine. Un charnier de plastique et de métal tapisse la cuisine. Le poste radio, 30 ans d'âge, est en morceaux. Mes parents l'utilisent pour leurs vieilles cassettes où survivent des chansons rares d'un autre temps. Eddie l'a pulvérisé. Dieu seul sait comment. Sur la gazinière, une marmite est stationnée comme un train au dépôt. Amani n'a rien changé à ses habitudes. Le lundi, elle cuisine des pâtes piquantes, couleur terre battue, sur lesquelles trônent trois morceaux d'agneau. Et chaque lundi soir, elle se marre en regardant Eddie les dévorer avec du pain italien et la moitié d'un gruyère. On improvise une perquisition aux environs de 1h30 du matin. Mon père a déjà retourné l'appartement, mais dans la panique, il a peut-être oublié quelque chose. Je soulève des objets sans réfléchir et feuillette des répertoires posés sur la table basse du salon. Amani a l'habitude d'y noter des trucs machinalement. Peut-être a-t-elle laissé un indice. Las, que des broutilles et des listes de choses à faire. Renouveler sa carte de bibliothèque ou acheter de la colle forte pour réparer un tiroir. Nous n'avons même pas le luxe de contacter des complices potentiels. Ma mère est une solitaire zélée et comblée. Les amitiés ne l'intéressent plus. Eddie, pieds nus, tourne en rond. Dans sa barbe, il marmonne des jurons sans destinataire, des malédictions contre X. En près de 50 ans de mariage, il n'a jamais passé une nuit loin d'elle. Il ne se quitte pas. Le matin, ils se chamaillent tendrement, mieux que des gosses. Le jeudi, ils vont boire un kawa au village d'à côté. Le soir, ils s'affalent devant la télé, blottis sur le canapé. Les derniers relevés de compte d'Amani ne révèlent aucune bizarrerie. Ses rares bijoux sont dans leur coffret, et sa réserve de liquide, 1000 euros, est dans son enveloppe, dissimulée sous la machine à laver. Aucun numéro étrange sur sa facture téléphonique, ni de site louche sur son ordinateur. qu'elle n'utilise jamais quasiment.